Job Radio présente Job News by Indeed, le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi.
Le 9 juillet dernier, l'OCDE a rendu public ses perspectives de l'emploi pour ses 38 États membres. L'organisation prévoit pour la France une hausse du taux de chômage à 7,8% d'ici à la fin de l'année 2025. Une mauvaise nouvelle tempérée par une prévision plus optimiste, elle, pour 2026. La courbe devrait s'inverser et retomber à 7,4% fin 2026. En parallèle, selon Indeed, le taux d'activité atteint un record historique, mais les destructions d'emplois salariés se poursuivent et les tensions se concentrent sur certains métiers. Alors, où en est-on vraiment du marché de l'emploi cet été? Quelles tendances marquent les recrutements? Quels secteurs s'en sortent le mieux? Et surtout, comment interpréter ces données dans un contexte économique mondial incertain? Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans Job News by Indeed, le podcast qui décrypte chaque mois l'actu de l'emploi. Et dans ce nouvel épisode, je reçois Alexandre Jude, économiste au Hiring Lab d'Indeed. Salut Alexandre.
Bonjour.
Alors Alexandre, on commence avec cette prévision de l'OCDE et on s'intéresse à la France. 7,8% de chômage fin 2025, puis un retour à 7,4% fin 2026. Est-ce que les données du Hiring Lab confirment cette trajectoire ?
Alors, elle les confirme dans la mesure où nous, on est vraiment sur, quand on regarde le volume d'offres, on est vraiment sur une normalisation du marché du travail. Donc, on a un volume d'offres qui s'effrite petit à petit depuis 2 ans. À l'heure actuelle, on est à peu près à 23% d'offres en plus sur Indeed par rapport au début 2020. Donc, c'est tout à fait compatible avec un chômage qui va osciller sur les niveaux qu'on constate actuellement. Par ailleurs, quand on regarde, par exemple, les prévisions d'autres organismes, comme par exemple de la Banque de France, on est aussi sur ces niveaux-là, hein, sur une oscillation du chômage, avec c'est juste le chiffre après la virgule qui change, hein, sur les années 2025, 2026 et 2027. Donc, pour le moment, s'il n'y a pas de bouleversement, on va dire, géopolitique, avec des impacts majeurs sur la croissance, on est effectivement sur un niveau de chômage qui devrait rester assez faible comparé à ce qu'on a connu historiquement.
Évidemment. Dans ta dernière analyse, tu évoques une résilience en surface, mais des fragilités en profondeur. Concrètement, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire d'abord que le taux de chômage ne monte pas, vraiment. Donc là, on arrive quand même à maintenir un taux de chômage qui est assez faible. Ça, on peut s'en féliciter. Après, les fragilités, ça va être les emplois qu'on n'arrive pas à pourvoir. Et dans les 23% de volume d'offres en plus par rapport à 2020, il y a des catégories de métiers qui sont à plus de 100, voire plus 300% en termes de volume d'offres. Donc des offres qui sont sur le site et qui partent soit qui mettent beaucoup plus de temps à partir. Donc là, c'est un vrai problème pour le fonctionnement du marché du travail, avec en face soit des personnes qui sont au chômage, soit des personnes qui sont inactives, qui pourraient prendre ces emplois. Donc ça reste vraiment un énorme problème. Ça pose un problème pour les finances publiques aussi en particulier, hein, puisque des personnes qui travaillent pas, ce sont aussi des recettes en moins pour l'État et de la croissance en moins. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle quand même de fragilité. Il faut vraiment qu'on arrive à avoir un marché du travail qui fonctionne mieux.
Le taux d'activité est au plus haut maintenant depuis 50 ans, mais dans le même temps, on perd encore des emplois salariés. Est-ce qu'on est en train d'atteindre un plafond ou on n'y est pas encore tout à fait ?
Alors, c'est vrai que le taux d'activité est au plus haut, ça aussi on peut s'en féliciter. Après, au sein du taux d'activité, donc le taux d'activité, c'est les gens à la fois qui travaillent et qui sont au chômage. Certes, on a 7,4% de chômage. Historiquement, par rapport à ce qu'on a connu, c'est faible, mais par rapport à d'autres pays, c'est quand même très élevé. C'est 2 fois plus que des pays comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Donc, on peut pas non plus s'en contenter. Donc, il faudrait essayer effectivement de pousser un peu ce taux d'activité avec notamment des sujets comme par exemple l'emploi des jeunes et l'emploi des seniors où on a à la fois des taux d'activité et des taux d'emploi qui sont plus faibles sur ces catégories-là. Donc, il y a un enjeu d'insertion sur le marché du travail et un enjeu aussi d'emploi des seniors qui se pose.
Et ce sont des sujets qui sont d'actualité, on a l'impression depuis des décennies déjà.
Ouais, depuis des décennies, d'où la nécessité de à la fois essayer des réformes structurelles, mais aussi essayer de réfléchir à la façon dont fonctionne le marché du travail plus globalement. On aura probablement l'occasion d'en reparler plus tard dans la conversation, mais sur des sujets comme par exemple la mobilité, le logement, qui peuvent impacter aussi les possibilités d'emploi
Des leviers peut-être à activer. Ouais. Si on regarde par catégorie de métier maintenant, quels sont ceux finalement qui restent encore en cet été 2025 sous tension ?
Alors, si on regarde, alors on a les métiers qui ont toujours été en tension. Donc, typiquement, c'est toujours les mêmes. On en parle tout le temps, la santé, les services à la personne, le nettoyage. Donc, ça, c'est vraiment des emplois pour lesquels on a énormément de d'offres en plus sur le site. On a aussi la médecine chirurgie, où on a une augmentation des tensions sur la dernière année. La puériculture, tout ce qui est thérapie. Ce sont des métiers, si on regarde encore une fois, non pas par rapport à en 2020, mais vraiment sur la dernière année, où les tensions se sont renforcées. Donc c'est des métiers en règle générale qui sont pas télétravaillables, avec des conditions qui peuvent être des conditions assez difficiles, que ce soit psychologiquement ou physiquement par exemple, ou avec en termes d'horaires, des horaires pas très compatibles avec une vie sociale ou une vie de famille normale.
Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui s'effondrent ? Est-ce qu'il y a aussi ce qu'on pourrait appeler, qualifier une polarisation du marché ?
Alors, par rapport à 2020, il y a vraiment des catégories de métiers où il y a moins d'offres, moins d'opportunités. Essentiellement, tout ce qui concerne l'informatique et l'industrie. Ça, effectivement, en termes de volume d'emploi, on observe, de volume d'offres, on observe des chutes assez spectaculaires, avec l'informatique, par exemple, qui est à peu près 20% en dessous du niveau de 2020. Ça s'explique par plusieurs choses. Il y a
Ont été pourvus.
Voilà, des emplois qui ont été pourvus. Il y a énormément d'emplois qui ont été créés donc dans l'informatique depuis la crise. C'est pas forcément vrai pour l'industrie. Après, ça dépend des sous-secteurs de l'industrie, mais encore, regarde l'industrie manufacturière globalement, on n'a pas pourvu plus d'emplois que si on regardait la croissance moyenne de l'emploi. Donc, il y a probablement un sujet un peu préoccupant sur l'industrie, des enjeux de compétitivité notamment, la capacité à continuer à créer de l'emploi industriel. Sur l'informatique, c'est un peu difficile de voir ce qui se passe. Comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'emplois qui ont été créés. Il y a l'impact de l'IA aussi probablement qui joue notamment sur les métiers juniors, avec beaucoup moins d'opportunités pour les juniors dans l'informatique. Donc voilà, depuis 2020, on a ces deux catégories de métiers où il y a quand même moins d'opportunités.
Tu parlais d'informatique, on peut parler aussi de marketing, des médias, parce que à l'image de l'informatique, c'est des secteurs qui ont été en vogue pendant un certain temps, il y a quelques années. Pour quelles raisons, selon toi, ça peut être aussi un signal inquiétant pour la suite?
Je pense que le premier facteur, c'est la création d'emplois très importante qu'on a connue sur les trois années entre, je dirais, 2021 et 2023. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, il y a effectivement le changement technologique avec l'apparition de l'IA qui va modifier énormément de postes de travail. Il y a aussi la capacité de l'économie française à continuer à créer des emplois. On a connu pendant les années post-crise une baisse de la productivité qu'on a quasiment rattrapée. Mais c'est vrai que si on veut continuer à créer des emplois et a fortiori des emplois bien payés, il faut qu'on arrive à dégager des gains de productivité. Et là, on revient sur le cœur des enjeux dont on discute depuis des années, soit par l'intermédiaire des finances publiques, soit par l'intermédiaire de la croissance. Mais il faut vraiment qu'on arrive à créer de la richesse et à être productif si on veut continuer vraiment à créer des emplois.
Si on s'intéresse maintenant au salaire, la hausse, elle se stabilise autour de plus 2%. On est loin des plus 5% de 2023, par exemple. Est-ce qu'on est en train de revenir à une forme de stagnation ?
Oui, clairement. De toute façon, le sujet de la hausse des salaires est lié au sujet de la productivité. On finance la hausse des salaires par les gains de productivité. Si nos entreprises n'arrivent pas à dégager des marges plus importantes, elles vont pas arriver à augmenter les collaborateurs. Donc c'est vraiment le sujet donc de ces gains de productivité. Donc pas du tout surpris que on commence à voir les salaires stagner.
Est-ce que la transparence salariale que prône Indeed, notamment, et qui progresse malgré tout, peut participer quelque part aussi à changer la donne?
Alors oui, on pense que ça va vraiment changer la donne. C'est aussi une demande des chercheurs d'emploi qui sont largement pour la transparence salariale. Ça va probablement forcer les entreprises déjà à rationaliser un peu leur grille de salaire, à expliquer les différences, à réfléchir sur la façon dont on va essayer de motiver les collaborateurs. Donc, il y aura probablement un développement des rémunérations variables qui seront liées aux objectifs et ainsi de suite. Ça permettra aussi probablement de lutter contre les discriminations, notamment les discriminations hommes-femmes, mais pas que. On sait qu'il y a encore des marges de progression de ce côté-là. Donc, oui, on pense que effectivement la transparence salariale va changer beaucoup de choses. Et quand on regarde les données, là, on est donc sur, depuis une dizaine d'années, hein, sur une augmentation assez constante de la part des offres qui mentionnent explicitement un salaire. Mmh. En France, on est à peu près sur une offre sur deux. Sachant que quand il y a un salaire, il y a à peu près 40% de plus de clics sur l'annonce. Donc,
ou pas, parce que voilà. Justement, on se dit que c'est pas suffisant.
Ouais.
Si la demande d'emploi recule et que certains secteurs n'offrent plus de perspectives, comme on pouvait en parler tout à l'heure, est-ce qu'il faut dire clairement aux jeunes que certains métiers n'ont tout simplement plus d'avenir ?
Je pense qu'il faut effectivement faire des efforts déjà sur la formation et sur l'orientation des jeunes. Mmh. Alors, est-ce qu'il faut leur dire directement que un certain nombre de métiers n'ont pas d'avenir ? Je ne sais pas. En revanche, il faut être très, très précis sur les compétences qui sont valorisés dans l'économie actuelle. Et ça peut être des compétences, il n'y a pas que les compétences techniques, il y a évidemment des compétences soft, des compétences de savoir-être, des compétences en communication. Il y a probablement, oui, une discussion à avoir et des dispositifs à penser pour avoir des échanges qui sont des échanges efficaces, fructueux avec les étudiants, avec les jeunes, pour savoir déjà ce qui les motive et comment ils peuvent arriver à s'épanouir dans le monde du travail. Donc plutôt que de dire que telle voie entre guillemets n'a pas d'avenir, peut-être repartir de ce qui motive les personnes et essayer de leur proposer des chemins sur la base des compétences voilà qui donc on a besoin dans l'économie actuelle.
On parlait à l'instant de rémunération, rémunération qui pouvait stagner, de transparence au niveau des offres d'emploi sur la partie salaire. Les entreprises en même temps, elles se plaignent de pénurie dans la santé, le médico-social, mais est-ce qu'elles payent vraiment le prix justement, le prix juste en tout cas pour attirer les candidats?
Oui, ça c'est le drame entre guillemets de ce qu'on avait appelé les professions essentielles pendant la pandémie et qu'on a un peu oublié là maintenant. On les a appelées aussi les professions de première ligne. Je pense qu'au-delà des entreprises, c'est aussi un choix social parce qu'il y a beaucoup de ces métiers qui appartiennent soit au public, soit au semi-public. Il y a aussi beaucoup de métiers réglementés. Donc, il y a derrière des choix sociaux qu'il faudrait peut-être revoir sur l'attractivité de ces postes-là. Et il n'y a pas uniquement la variable de rémunération. Il y a ce qu'on évoquait tout à l'heure autour du logement, par exemple, les infirmiers, les infirmières, les policiers, les policières, les serveurs, les caissiers, toutes ces personnes qui travaillent souvent au cœur des villes et qui sont obligées d'habiter loin.
Pouvoir se loger.
Voilà, le marché du logement est très, très lié au marché du travail, et le logement reste le premier poste de dépense des ménages. Donc, si les entreprises ou si les recruteurs n'ont pas les moyens d'augmenter la rémunération, il y a peut-être des politiques publiques ou des choix sociaux qui sont à activer du côté du marché du logement, dont on sait que c'est un marché qui est défaillant sur un certain nombre de territoires, en particulier là où il y a des tensions sur l'emploi. Et c'est ça dans tous les pays occidentaux. On sait qu'il y a une défaillance de marché sur le marché du logement, avec des prix du logement qui sont très très élevés dans la plupart des métropoles occidentales.
Avec des logements donc inaccessibles. Dans l'étude, là on était très focus sur la France, sauf que le Hiring Lab, vous êtes présent dans nombreux pays. Dans l'étude mondiale justement, certains pays frôlent la récession, d'autres résistent mieux. Comment est-ce que la France se situe par rapport, par exemple, aux États-Unis, l'Allemagne ou encore le Royaume-Uni?
On est, je dirais, par rapport aux pays que tu as cités, on est peut-être moins exposé au contexte international, puisque bon, malheureusement, on exporte moins que des pays comme l'Allemagne, par exemple. On est finalement sur la variable énergétique, par exemple, moins exposé hein, aussi que l'Allemagne, par exemple. On a un marché du travail plus rigide. Quand il y a beaucoup de croissance, c'est plutôt un frein. Mais quand la croissance commence un peu à s'essouffler, il y a un effet, on va dire, d'inertie. Donc, on va les emplois sont tendance à être plus protégés. Donc, il faut avoir ça en tête quand on regarde les données françaises. On est dans une situation, je dirais, pour le moment intermédiaire. Si on regarde, par exemple, les offres sur Indeed, on est à plus 23% d'offres par rapport à 2020. Au Royaume-Uni, ils sont en dessous de 100. L'Espagne et l'Italie, qui sont aussi des marchés assez rigides, sont à plus de 50. Donc, il y a des opportunités d'emploi. Il y a malheureusement ce problème d'emploi non pourvu, d'emploi non attractif. Mais voilà, c'est une façon de... Ça dépend ouais. comment on regarde les choses.
Alors, dans ce que tu dis, je comprends que finalement, le marché de l'emploi en France a une forme de singularité qui lui est propre. Aux États-Unis, on parle encore d'un possible atterrissage en douceur. En Allemagne, on parle de récession, clairement, et qui dure. En Australie, on semble mieux résister. Est-ce qu'on peut éviter quand même ce qu'on pourrait appeler un phénomène de contagion?
Alors, l'atterrissage en douceur, de mon point de vue, il a eu lieu aux États-Unis. Ouais. C'est-à-dire que la Fed a réussi à baisser l'inflation sans casser la croissance et sans créer du chômage. Ça, c'est quand même une belle réussite. Le volume d'offres a baissé, très clairement. Donc, c'était un peu le pari. C'était faire baisser l'inflation en faisant baisser la demande de travail et les offres d'emploi sans créer du chômage, c'est-à-dire sans casser les emplois existants. Donc ça, l'atterrissage en douceur, il a eu lieu aux États-Unis. Après, il y a un certain nombre de turbulences du côté des États-Unis qui sont dues au choix actuel de l'administration. Donc il est peut-être un peu tôt pour juger de finalement l'impact que ça aura. Mais ça, c'est de mon point de vue autre chose. Après, en Europe, tu as cité l'Allemagne, ils ont un sujet, le modèle allemand de la croissance a été cassé par la guerre en Ukraine, parce que finalement, ils achetaient du gaz russe à bas prix. Ils exportaient vers la Chine, vers les États-Unis. Là, il y a de grosses turbulences sur le marché, les marchés internationaux.
Donc, voilà,
ce modèle-là ne fonctionne plus vraiment. En France, c'est vrai que pour le moment, si on se compare donc aux États-Unis, à l'Allemagne, on a plutôt été protégé de ces turbulences-là. Le sujet français, il est plus effectivement sur la flexibilité de notre marché du travail et la soutenabilité de notre modèle de protection sociale qui est lié de toute façon aux cotisations des actifs et donc au travail.
Très concrètement, là on a parlé de la tendance du moment, de cet été, sur les semaines, sur les mois à venir, sur le marché de l'emploi en France, qu'est-ce qu'on peut dire? On parie sur une forme de stabilisation, voire de stagnation ou de reprise, ou au contraire d'un coup dur à prévoir?
Alors, en l'absence, d'événements géopolitiques majeurs ou de réformes structurelles qui viendraient changer la donne sur le marché du travail. Nous, on est effectivement sur une poursuite de la tendance à la normalisation où il y aura de moins en moins d'opportunités, de moins en moins d'offres d'emploi, mais un chômage qui va rester faible. Voilà, donc se posera probablement à un moment donné la question de si on veut continuer à proposer des emplois, il va falloir soit faire des réformes structurelles, soit trouver un moyen de créer de la croissance. Sinon, il y aura probablement des sujets de finances publiques, un calage de la croissance.
Ils sont déjà là.
Et une remontée du chômage. Mais une remontée du chômage à horizon peut-être 2029, 2030, 2031. C'est difficile de donner des projections, surtout que nous, Indeed, au Hiring Lab, on fait surtout pas de projections. On regarde vraiment l'évolution de nos données à nous. On va pas faire de projections sur le chômage.
Non, c'est du factuel.
Ouais.
Et pour les entreprises qui continuent de recruter malgré tout, malgré le contexte, selon toi, c'est quoi les leviers qu'elles peuvent actionner pour rester quelque part attractives et attirer les talents?
Alors quand elles le peuvent, essayer de proposer aux candidats des avantages, mais des vrais avantages. On parlait du logement tout à l'heure. Le logement, c'est un vrai avantage. Travailler sur la qualité du management aussi. La qualité du management, c'est pas uniquement le bien-être au travail ou proposer, de la bonne nourriture à la cantine. Je dis pas que c'est pas important, mais la qualité du management, c'est vraiment la façon dont on va travailler. Est-ce qu'on va donner par exemple aux collaborateurs la liberté de choisir leur méthode de travail? Est-ce qu'on va être à l'écoute de leurs besoins? Est-ce qu'on va les intégrer à la définition des objectifs? Est-ce qu'on va écouter par exemple les gens qui sont sur le terrain pour définir ces objectifs? Donc ça, c'est des des choses qui vont impacter directement la qualité du management et en bout de chaîne aussi la productivité. Donc c'est gagnant-gagnant à la fois pour les salariés et pour les chefs d'entreprise, pour les entreprises.
Des collaborateurs qui sont bien dans leur pompe, j'ai envie de dire, forcément pour la productivité, c'est
exactement,
du bénéfice.
Exactement. Le fait aussi de reconnaître le travail qui est fait, je pense que c'est vertueux et ça permet encore une fois de rendre possible des gains de productivité qui sont pas des gains de productivité qui viendraient uniquement de l'innovation ou du changement technologique.
Un grand merci à toi, Alexandre.
Merci.
Merci de nous avoir suivis. Merci pour cet éclairage complet sur le marché de l'emploi en France et dans le monde. C'était Job News by Indeed, le podcast qui décrypte tous les mois l'actu de l'emploi. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et à nous laisser une note positive sur les plateformes. Merci de votre fidélité et à très vite. Salut, Alexandre.
Job Radio vous a présenté Job News by Indeed, le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi.